9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Paris a beaucoup changé dans le deuxième tiers du 19e siècle. Vous le savez, la capitale a été transformée de fond en comble par l'empereur Napoléon III sous le nom du baron Haussmann, mais on sait qu'en fait l'empereur lui-même a joué un rôle d'urbaniste absolument extraordinaire. Il a voulu embellir, assainir la ville dont l'architecture était pour partie héritière de du Moyen-Âge, et puis bien sûr de l'époque moderne. Alors on a perdu un peu dans ces transformations de Paris, c'est certain, on a perdu de petites merveilles, mais on a gagné cette grande capitale impériale. Paris embelli, Paris agrandi, Paris assaini, c'est ce que voulait le baron Haussmann, avec des boulevards qui ont été percés, des parcs, des jardins, ces grandes perspectives, ces grandes places, et puis partout des immeubles de pierre de taille qui sont sortis de terre et qui ont d'ailleurs été construits dans les décennies qui ont suivi la chute du Second Empire. Dans cette métamorphose urbaine a émergé une génération d'artistes assez fascinés par tout ce qui s'opérait là, par tous ces changements, et parmi eux, bien sûr, Gustave Caillebotte, peintre de génie, c'est incontestable et on va le voir, mais aussi mécène et collectionneur, c'était un homme très généreux. Caillebotte est un peu moins connu, à l'échelle internationale en tout cas, que Monet, que Renoir ou que Degas. Et pourtant, on peut dire que sans lui, les impressionnistes n'auraient pas eu le succès qu'ils ont eu, parce que c'est à Caillebotte qu'on doit un soutien dès la deuxième exposition. J'avais eu l'occasion de vous raconter ça lorsque nous avons évoqué le 150e anniversaire des impressionnistes. C'est lui qui a donné en quelque sorte sa structure à ce mouvement. Alors c'était un artiste un peu dandy, Caillebotte. Il était fortuné, pour tout vous dire. On disait qu'il peignait à ses moments perdus, parce qu'il n'avait pas du tout besoin de ça pour vivre. On est vraiment très loin de l'artiste maudit, là, évidemment. Je vous ai dit qu'il était généreux. Alors, toute sa vie, il a voulu s'affranchir des contraintes de la peinture classique pour essayer d'aller saisir le réel et de le saisir sans détour, ce qui n'empêche pas une construction très savante dans la composition des toiles. Il a voulu aller saisir le réel de la vie telle qu'elle se présentait, la vie bourgeoise d'un côté, mais aussi la vie laborieuse qu'il aimait aller toucher du doigt, si je puis dire, aller saisir dans l'instant et dans la rue.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Cette vie bourgeoise, Gustave Caillebotte l'a commencée en 1848, donc une année charnière essentielle, l'année du printemps des peuples. À Paris, son père Martial était entrepreneur, il a fait fortune dans la vente de draps pour les armées. Sa mère Céleste était une femme qui va jouer un rôle très important. Et puis trois frères, Alfred qui est né d'un premier mariage, René et Martial. Et toute sa vie, Gustave va rester proche du dernier frère de Martial, avec lequel il va vivre longtemps, avec lequel il va partager des passions, notamment pour la philatélie et pour les sports nautiques qui vont être le sujet de plusieurs de ses toiles. Caillebotte fait des études de droit, ça c'est pour faire plaisir à son père. Il obtient sa licence juste avant d'être mobilisé pour aller combattre les Prussiens. C'est l'époque de la guerre de 1870. Il va participer dans la foulée à la défense de Paris en 1871, mais la vérité c'est qu'il n'a aucune intention de devenir juriste, avocat. Il ne veut pas non plus faire carrière dans les armes. Lui, ce qu'il veut, lui, ce qui l'anime et le motive, c'est peindre, peindre toujours. Il décide donc de se présenter à l'entrée de l'école des Beaux-Arts à Paris. Pour se préparer, il suit les cours de Léon Bonnat, qui est un des grands peintres de cette deuxième moitié du 19e siècle. C'est d'ailleurs intéressant parce que Bonnat est un peintre admirable, extraordinaire. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire, j'en suis fou. Mais comme il est un peintre tout à fait traditionnel et classique, il a un peu aujourd'hui perdu de réputation. Et c'est dommage, parce que vraiment, c'est un grand peintre. Bref, Caillebotte travaille à ses côtés, sans ménager sa peine. Il travaille énormément, c'est un passionné qui peint des paysages, des animaux, des portraits de famille. En 1873, quand il est reçu au concours des Beaux-Arts, on peut dire que sa formation est déjà faite. C'est un peintre accompli qui dispose donc de cette belle fortune qui va le dispenser de travailler et qui va pouvoir se lancer dans une paisible entreprise et en même temps exaltante. peindre ce qui lui tombe sous les yeux. Et c'est dans un village du sud-est de Paris, c'est à Hyères, que les caillebottes ont l'habitude de passer la belle saison. Eh bien, Gustave va peindre ce qu'il voit. Il a 12 ans, Gustave, quand son père a fait l'acquisition du Cazin, cette très belle maison entourée d'un parc immense, bordée d'une rivière. Quand je dis très belle maison, imaginez une belle maison toute blanche avec des colonnades, un fronton. C'est une maison qui ressemble un peu à un petit palais italien. Il y a quelque chose... on peut dire que c'est tout à fait dans l'esprit un peu des villas vénitiennes, si vous voulez. La famille passera... il y a quelque chose de paladien. Voilà, je cherchais le mot, pardon. La famille passera ses vacances pendant 19 ans dans cet endroit. Et c'est dans cette propriété que Caillebotte va trouver les premiers motifs de sa peinture. Hein, dans ce joli coin de verdure, il va y peindre plus de 80 tableaux. Des toiles tout à fait paisibles, où l'on voit des proches se promener au milieu de parterres de fleurs et de pelouses vertes. Le Cazin, c'est le cadre de la vie heureuse. Ce qui ne veut pas dire pour autant que Caillebotte préfère l'oisiveté au labeur. Toute sa vie durant, et quand je dis toute sa vie, ça va être, malheureusement, vous allez le voir, une vie bien courte. Toute sa vie, il va essayer non seulement de travailler lui-même, mais de peindre ceux qui travaillent, de peindre l'effort. Et c'est peut-être ce qui, notamment, va non seulement bouleverser l'art de l'époque, mais choquer un certain nombre de contemporains. C'est Alain Planès qui peint pour nous ce paysage, une des pièces pittoresques d'Emmanuel Chabrier.
Vous écoutez Radio Classique.
C'est donc dans ce nouveau Paris d'Haussmann que la famille Caillebotte emménage en 1867 dans le tout nouveau quartier autour de Saint-Lazare, le quartier de l'Europe. Le père Martial a fait construire un hôtel particulier. C'est vraiment une demeure absolument incroyable. Hein. Il y a même une salle de bain avec baignoire à demeure, puisque souvent, vous savez qu'à l'époque, pour prendre des bains, il fallait faire venir les garçons de bain. On faisait monter les baignoires, puis ensuite on les redescendait. Non, là, vous avez une salle de bain. Ça vous donne une idée du luxe de cette demeure, dont les pièces ouvrent sur la rue par de bien hautes fenêtres, très lumineuses. Et c'est devant une de ces fenêtres que Gustave va peindre son frère René. Il le peint de dos, c'est quand même une façon un peu inhabituelle de représenter un personnage, en tout cas à l'époque. Ça s'appelle « Jeune homme à sa fenêtre », on est en 1876. Et ce frère René, il va mourir à 25 ans d'un possible suicide. Il va mourir quelques mois seulement après la réalisation de cette toile, dont on doit pouvoir dire qu'elle est baignée d'une espèce d'atmosphère assez particulière, de mélancolie. Cette vie de famille, cette vie tout à fait bourgeoise, Caillebotte la retranscrit bien entendu sur ses toiles, mais pas à la manière dont on pouvait le faire à l'époque. Il y a quelque chose de plus réaliste chez lui, pas de détour, pas trop de mise en scène, on essaie toujours de capter l'instant. Dans Le Déjeuner, qui est peint la même année, en 1876, le jeune peintre représente sa mère Céleste et son frère René assis autour d'une table. L'une se fait servir, l'autre est en train de déjeuner. Et si l'on accepte le rouge du tapis, le tableau est assez sombre. C'est à peine si la lumière filtre à travers les fenêtres. Le père de Gustave vient de mourir à cette époque. Il est mort le jour de Noël 1874. Et c'est vrai que l'atmosphère ne doit pas être bien gaie dans la famille, comme nous le montre la grande robe de deuil de la mère. Ici, un peu comme le ferait un photographe avec un objectif, Caillebotte nous invite à entrer dans le quotidien de cette famille, à entrer en tout cas dans cette pièce où il prend ses repas. Il nous fait même asseoir à la table d'une certaine manière, puisqu'il y a cette assiette vide au premier plan qui pourrait être aussi bien la sienne que la nôtre. Toujours ce jeu subtil de substitution entre le peintre et le spectateur. On retrouvera d'ailleurs ce type d'atmosphère dans pas mal de toiles de Caillebotte. Et puis le jeu de la perspective, où il excelle, à mon avis, c'est là qu'il se révèle le plus. C'est un très grand perspectiviste, Caillebotte. En 75, c'est encore dans son appartement qu'il trouve l'inspiration. Dans une des pièces, trois ouvriers sont en train de s'activer à raboter le parquet. On connaît ce tableau, c'est son plus célèbre, bien sûr. Et là, il y a quelque chose de photographique, pour le coup. La scène est captée avec une espèce de précision dont on dit qu'elle est réaliste. C'est du réalisme tel qu'on pouvait le faire dans le naturalisme de l'époque. N'oubliez pas que c'est l'époque où Zola écrit ses romans, avec ses gestes des ouvriers, là, ces hommes qui ont le torse nu, avec les muscles tendus, les outils un peu éparpillés partout, des copeaux de bois qui jonchent le parquet. Et tous les détails ont été explorés jusqu'aux perles de sueur. Il y a l'alliance, si vous voulez, du raboteur qui ne fait qu'un avec son œuvre, avec son milieu. Et puis la bouteille de vin rouge et le verre rempli qui attend pour désaltérer ces hommes. Bref, cette œuvre, c'est une des premières représentations du prolétariat urbain. Ça n'est pas un sujet qu'on traitait à l'époque. Or, Caillebotte, lui, va s'approprier ce genre de sujet. Et évidemment, vous pensez bien que ça ne peut pas plaire à tout le monde. D'autres, avant Caillebotte, quand même, s'étaient un peu attachés à représenter le labeur. Je pense à Millet et ses glaneuses, mais c'était dans les campagnes plutôt. Courbet, c'est vrai, nous avait montré des casseurs de pierre. Vous savez, vous connaissez les engagements politiques très forts de Courbet. On ne peut pas en dire autant de Caillebotte. Ce n'est pas un engagement politique dans son cas. C'est plutôt la volonté de montrer la vie telle qu'elle est en vérité et d'anoblir des sujets qui jusqu'alors n'avaient pas été considérés comme tels. On voit des gens en redingote sur ces tableaux, c'est vrai. Chapeau haute forme, mais aussi des ouvriers en blouse. Il n'y a pas d'héroïsme, il n'y a pas de misérabilisme, il y a simplement la vie sur le vif. Les raboteurs de parquet, si vous voulez, c'est l'entrée des petits métiers dans la grande peinture. On doit pouvoir dire ça. Caillebotte reste toujours très esthétique, hein. Il veut faire du beau, mais ça ne l'empêche pas d'essayer de montrer le vrai. Du beau et du vrai, si l'on peut dire. Voici ce que disait Louis Hainaut, le critique, à propos des raboteurs. « Tous ceux qui ont eu le plaisir ou l'ennui de faire bâtir connaissent la façon de travailler de ces robustes gaillards qui mettent franchement de côté tout costume gênant, ne gardant du vêtement que sa partie la plus indispensable. » Vous voyez que le peintre a visé juste. La voie que Caillebotte a choisi d'emprunter, c'est celle du réalisme violent, dit-il. Selon les mots qui permettent en quelque sorte de définir le travail de Caillebotte. Réalisme violent. Il ne faut pas chercher un discours social ou politique, là. Il faut simplement chercher une volonté philosophique et esthétique de peindre le vrai. Voilà. Une réalité qui ne plaît pas, bien sûr. Même Émile Zola, d'ailleurs, c'est quand même un comble, trouve que ces raboteurs sont une œuvre bourgeoise anti-artistique parce que claire comme le verre, dit-il. Bon, il reverra son jugement sur Caillebotte, vous savez, des années plus tard. Il percevra, mais avec retard, tout ce qu'il a manqué avec les raboteurs. D'abord, cette composition absolument incroyable, juste, précise, avec des lignes très, très nouvelles. Tout ça s'est passé... C'est passé un peu au-dessus de Zola, il faut bien le dire. Après les raboteurs, Caillebotte va renouveler l'expérience, alors cette fois en extérieur, avec ses peintres en bâtiment. Ça, c'est une toile qui m'a complètement renversé l'autre jour, lorsque je l'ai vue dans l'exposition des impressionnistes à Orsay. J'y ai passé du temps, parce que Là, vraiment, c'est vertigineux. Vous avez une perspective complètement incroyable à hauteur de vue des personnages, avec un point de fuite qui est complètement déporté sur la partie gauche du tableau. Le spectateur est comme s'il était le piéton dans la rue. Et en même temps, si vous regardez, il n'y a pas une ligne de ce tableau qui n'ait été étudiée pour renverser, pour donner du mouvement. C'est assez incroyable. Encore une fois, pas de message politique. Hein. Simplement, quelques ouvriers qui sont là, qui sont en train d'observer la façade de la boutique qu'ils ont à repeindre, qui sont pris dans le vif de leurs réflexions, mais avec la plus savante des compositions qu'on puisse imaginer, qui pourrait presque faire penser à du Velázquez, si vous voulez, pour ce qui est du caractère, ou, dans un tout autre registre, à l'autre bout du spectre, à du Mondrian. Bref, il y a un travail incroyable sur la composition. Ce qui frappe chez Caillebotte, c'est qu'il ne peint presque que des hommes. Un thème qui d'ailleurs fait l'objet en ce moment de la grande exposition du Palais d'Orsay. Hein. Caillebotte, peindre les hommes, c'est le parti pris des commissaires de l'exposition. Sur les 76 œuvres présentées par l'artiste de son vivant, donc là on est entre 1876 et 1888, 33 représentent des hommes, avec toujours ces compositions très ambitieuses. 33 représentent des hommes, 16 représentent des femmes. Et ces hommes, ils sont peints dans la réalité la plus crue, ce qui à l'époque choque, bien entendu. Et je pense notamment à L'homme au bain en 1884, où Caillebotte nous laisse carrément entrevoir une partie du scrotum d'un homme qui est en train de s'essuyer. Il est de dos, il est entièrement nu. Et il y a aussi L'homme s'essuyant la jambe, où Caillebotte va révolutionner complètement l'idée qu'on se faisait du nu masculin. Là, il n'y a plus aucun héroïsme, plus aucun symbolisme. C'est au contraire l'homme vulnérable tel qu'il est réellement qui est montré. Et ça, évidemment, autant on a montré tous les nus féminins possibles et dans toutes les postures, autant personne n'était allé aussi loin, bien sûr, dans le nu masculin à l'époque. On va saisir l'homme dans son intimité, même, disons-le, dans sa salle de bain. Déborah Nemtanou, accompagnée par l'Orchestre de Chambre de Paris sous la direction de Thomas Zeitmeier, interprétait cette berceuse de Gabriel Fauré.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Le salon n'avait pas voulu des raboteurs en 76. Hein. L'œuvre avait été jugée trop réaliste. Il y a même des critiques qui disent que le sujet est vulgaire. Eh bien, puisque l'Académie ne veut pas de lui, Caillebotte se tourne vers les impressionnistes, ces artistes, vous savez, qui à l'époque sont donc à la recherche de quelque chose d'autre, d'une indépendance totale dans cette fin de 19e, Monet, Renoir, Cézanne, Pissarro, Van Gogh plus tard, post-impressionniste et Degas. Et puis donc Caillebotte qui veut sortir des codes habituels, qui veut sortir des codes du salon. L'esprit de l'impressionnisme se résume à la phrase de Monet « Je peins ce que je vois et non ce qu'il plaît aux autres de voir ». Alors, la façon de le faire entre Monet et Caillebotte est très différente. On ne peut pas dire de Caillebotte qu'il soit un pur impressionniste. Il ne s'intéresse pas, loin de là, aux effets et aux reflets de la lumière et de la couleur. Lui s'intéresse autant, sinon bien plus même, à la composition, je vous l'ai dit, et à la saisie d'une forme de réalisme. Il n'empêche qu'il va s'agréger à ces impressionnistes sans faire faire tout à fait partie du courant. Il est là à la deuxième expo, hein, dans les locaux de la galerie Durand-Rebel. Il va exposer ses raboteurs de parquet aux côtés des toiles de Monet, Pissarro, Sisley, etc. Et Degas, bien sûr. On remarque cette œuvre. Le sujet choque un peu, faut bien le dire. Or, vous savez, parce que je vous l'ai beaucoup raconté là, ces derniers temps, que les impressionnistes n'ont pas du tout bonne presse. Voici les mots du critique Albert Wolff sur la deuxième expo impressionniste. « On vient d'ouvrir chez Durand-Rebel une exposition qu'on dit être de peinture. Cinq ou six aliénés, dont une femme, un groupe, c'est Berthe Morisot, un groupe de malheureux atteints de la folie, de l'ambition, s'y sont donné rendez-vous pour exposer leur œuvre. Ces soi-disant artistes s'intitulent les intransigeants, les impressionnistes. Ils prennent des brosses, jettent au hasard quelques tons et signe le tout. Faites donc comprendre à M. Pissarro que les arbres ne sont pas violets et que le ciel n'est pas d'un beurre frais. » Bon, certes, voilà, on sait ce que la critique a pensé de tout ça. Caillebotte prend tout ça avec une certaine philosophie, lui. « Quant au public, toujours gai, écrit-il. On s'amuse beaucoup chez nous, c'est toujours ça. » D'ailleurs, lui, il est plutôt épargné, peut-être justement parce que, alors qu'on critiquait un côté très, très vague dans la peinture impressionniste, lui continue de travailler selon les grands critères qui ont été ceux de la peinture de tout temps, et notamment cette composition très soignée et très travaillée. Caillebotte va jouer un rôle assez particulier au sein de ce groupe. C'est qu'en fait, il va être le soutien de tout le monde. Alors, ces artistes ont pris l'habitude de se retrouver au Batignolles, au café Gerbois, vous savez. C'est là qu'on rit, qu'on discute, qu'on joue, qu'on se dispute aussi parfois. Et qui règle l'addition, généralement, c'est Caillebotte, qui bénéficie de la rente que lui a laissée son père, hein, qui permet de vivre sans travailler, je vous l'ai dit, et qui va acheter. Alors d'abord, il va héberger ses amis impressionnistes pour d'autres expositions, et il va leur acheter plusieurs de ses toiles. De cette façon-là, il devient une sorte de mécène. Et sans lui, il est certain que le courant impressionniste serait allé moins loin. Et puis, il va organiser lui-même cette troisième expo de 77. C'est lui qui finance tout, hein, d'ailleurs. C'est d'ailleurs en cette année 77 que le terme impressionniste sera imposé. On peut dire aussi que Caillebotte se distingue du mouvement à ce moment-là. Mais il est au cœur et il est essentiel. Le mouvement qui se fissure, hein, Monet, Renoir, Cézanne, Sisley vont choisir le Salon en 1880. Caillebotte écrit à Monet « Puisse cette défection vous profiter après Sisley, après Renoir, vous, la vie me semble être une chose atroce. » Oui, il est amer, cet homme qui a tant fait pour ses amis et qui voit qu'il le lâche les uns après les autres. Et puis, les relations entre Degas et Caillebotte se tendent également. Mais Caillebotte tient bon en faisant de l'impressionniste une véritable école, en révélant sa cohérence d'exposition en exposition, il arrive à faire reconnaître ce mouvement, et ce n'est pas le moindre de ses titres de gloire.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Il sacrifiera sa postérité à ce mouvement impressionniste Caillebotte. Il s'efface d'une certaine manière devant les autres. « Personne n'en veut, j'achète », dit-il pour certaines des œuvres effectivement qui ne trouvent pas preneur. Et on est étonné de voir à quel point il était très très... Il avait une grande sagacité dans les choix qu'il faisait, dans la collection qu'il constituait. Le 21 février 1894, il va mourir à l'âge de 45 ans d'une congestion cérébrale. Il était en train de travailler dans son jardin à un nouveau paysage. Il a été saisi à son tour, si je puis dire, lui qui saisissait toujours le réel. Là, c'est le réel qui l'a emporté. Un décès qui va faire beaucoup parler, qui a beaucoup choqué les impressionnistes, bien entendu. Et par testament, il va léguer 70 de ses œuvres à l'État en stipulant que les tableaux n'aillent ni dans un grenier ni dans un musée de province, mais bien au Luxembourg et plus tard aux œuvres. Il faudra quand même des années avant que l'on expose le bal du Moulin de la Galette de Renoir, les régates à Argenteuil de Monet ou le balcon de Manet, bien sûr, ou les ballets de Degas. Mais en tout cas, c'est la collection Caillebotte qui va servir, qui va être à l'origine de tout cela. Et ces tableaux à lui, me direz-vous, eh bien, ces tableaux à lui, il faudra encore bien plus de temps pour qu'on les reconnaisse. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que on peut constater au fil des mois et des années que peu à peu, Caillebotte s'impose. Et je ne serais pas étonné, ça ne regarde que moi ce que je vais vous dire là, mais je ne serais pas étonné qu'à terme, ces tableaux qui se sont maintenant largement imposés finissent même par surnager, voire par dominer l'ensemble.
Vous écoutez Radio Classique.
Merci à Gaspard Lemarinier d'avoir fait quelques petites recherches sur Caillebotte et bonjour à notre Christian Morin.
Je vous écoutais parce que ça donne vraiment envie d'aller au musée d'Orsay.
Ah oui, oui.
Voir les œuvres de Caillebotte. Il y a une œuvre parmi lesquelles, les nombreuses œuvres de Caillebotte que j'aime beaucoup, c'est le Pont de l'Europe.
Alors justement,
pas très loin d'ici.
Ça m'étonne pas que vous disiez ça parce que Caillebotte a beaucoup peint autour de l'hôtel particulier de ses parents et donc dans notre quartier, puisque notre
quartier,
radio
voilà.
Se trouve là. Et il arrive, moi, assez souvent, quand me promenant autour de la radio, je me dis, tiens, je pense à tel ou tel tableau
voilà.
de Caillebotte.
Alors, oui. Pas très loin de la gare Saint-Lazare, pour situer aux auditeurs qui nous écoutent, peut-être en province. Et puis, il faut rappeler que c'était un architecte naval aussi.
Oui,
Régatier, c'était extraordinaire. J'ai beaucoup aimé cette phrase, je peins ce que je vois et non ce que les gens ont envie de voir.
Ah oui, ça c'était Monet,
que,
ça.
Oui, Monet, oui. Mais il se trouve que, il s'avère que certains peintres voient très mal. Je m'arrêterai là. Hein. Merci mon cher Franck.
Merci
cet
à vous.
Après-midi, vous allez évoquer Proust et la musique. Alors Proust,
reste
qui
dans
est
l'époque.
Proust qui est pas très, n'est pas très loin d'ici.
Non plus.
À côté de Radio Classique, décidément, c'est un vivier.
Oui, cette radio est bien placée.
À commencer par Franck Ferrand d'ailleurs,
oui,
que
oui.
Vous retrouverez à 14h bien sûr. Et puis demain matin, passez une bonne journée.
Bonne journée.